On compte sur vous. Qui correspondent à sa, au contexte historique de, cette, de ce livre d'Agé. J'aimerais juste qu'on lise quelques versets dans le livre d'Esdras. Chapitre 1. Esdras, chapitre 1. Comme ça. Tu me dis si ça s'entend. Oui, je pense que c'est bon. Esdras chapitre 1, verset 1. La première année du règne de Cyrus sur la Perse, l'Éternel réveilla l'esprit de Cyrus, roi de Perse, afin que s'accomplisse la parole de l'Éternel prononcée par la bouche de Jérémie, et il fit faire de vive voix, et même par écrit, la proclamation que voici dans tout son royaume. Voici ce que dit Cyrus, roi de Perse. L'Éternel, le Dieu du ciel, m'a donné tous les royaumes de la terre et m'a désigné pour lui construire un temple à Jérusalem, en Juda. Qui parmi vous fait partie de son peuple ? Que son Dieu soit avec lui et qu'il monte à Jérusalem, en Juda, pour reconstruire la maison de l'Éternel, le Dieu d'Israël. Chapitre 2, verset 1. Voici les habitants de la province de Juda revenus de déportation, ceux que Nebuchadnezzar, le roi de Babylone, avait exilés à Babylone, et qui retournèrent à Jérusalem et en Juda, chacun dans sa ville. Ils revinrent avec Zorobabel, Josué, Néhémie, etc. Verset 64 du deuxième chapitre. L'assemblée d'Israël tout entière se composait de 42 360 personnes, sans compter leurs serviteurs et leurs servantes, au nombre de 7 337. Chapitre 3, verset 1. À l'aube du septième mois, les Israélites étaient installés dans leur ville et le peuple se rassembla comme un seul homme à Jérusalem. Josué, fils de Jotsadak, accompagné de ses frères les prêtres, et Zorobabel, fils de Shealtiel, accompagné de ses frères, se levèrent et reconstruirent l'autel du Dieu d'Israël pour y offrir des holocaustes, conformément à ce qui est écrit dans la loi de Moïse, homme de Dieu. La période qui s'étend entre la fin du règne de Josias et la dernière prophétie biblique, si tu peux cliquer, voilà, la dernière prophétie de l'Ancien Testament en Malachie couvre à peu près un peu plus de 150 ans, un peu plus d'un siècle et demi. Elle est très riche, d'abord parce qu'on s'aperçoit qu'il y a beaucoup de livres de l'Ancien Testament qui ont été écrits à cette période-là, et ensuite elle est aussi une période dramatique dans l'histoire d'Israël. C'est pendant cette période que se succèdent les derniers rois de Juda, quelques grands noms de prophètes qui ont prophétisé à ce moment-là, que vous voyez sur cette image. Et puis, en 586, c'est la catastrophe. Jérusalem est prise, le temple est détruit, et le peuple qui restait encore dans le pays est déporté sur les rives de l'Euphrate. 50 ans après, à peu près, en 538, c'est le retour. Le premier retour, on va dire, le premier retour sous Zorobabel, c'est ce qu'on vient de lire, et ce retour du peuple se fera en plusieurs étapes. Il y a celui de Zorobabel qu'on voit là, si tu peux cliquer encore, s'il te plaît, Étienne. On a le retour d'Esdras plus tard, presque un siècle plus tard, Esdras, Néhémie, qui reviennent également dans le pays, et c'est seulement sous Néhémie que la muraille sera reconstruite. La période qui nous intéresse concerne donc cette période du premier retour, à partir de 538, 537. Si tu peux cliquer encore, je suis désolé, j'ai pas de télécommande. C'est à ce moment-là que se situe notre livre d'Agé, avec la reconstruction du temple, et puis donc les personnages dont on parlera un petit peu plus, qui sont, encore un clic s'il te plaît, Zorobabel, Agé, et Zacharie également, le prophète Zacharie, qui a prophétisé en même temps qu'Agé. Passe à la diapo suivante, peut-être un peu plus illustrative. Après avoir averti son peuple pendant des années, et malgré ses avertissements, le jugement s'abat en 586 de façon radicale sur le peuple d'Israël, sur le peuple de Juda. C'est véritablement la catastrophe, parce qu'il y avait eu des déportations auparavant, mais Le temple était toujours là, Jérusalem était toujours là. Mais en 586, à la fin du règne de Sédécias, Nebuchadnezzar prend la ville, détruit la ville, et pire encore, détruit le temple. C'était pourtant le temple de l'Éternel. Le temple de l'Éternel, le temple de l'Éternel, oui. Mais Dieu avait averti, et le peuple n'avait pas voulu écouter, malgré les avertissements des prophètes. Le temple est détruit. La ville est détruite, et le peuple est envoyé en déportation à un millier de kilomètres de là, sur les rives de l'Euphrate, à Babylone. Il faut se représenter quelle catastrophe ça a été dans le, non seulement la catastrophe qui est toute guerre, hein, il y en a aujourd'hui dans bien des coins du monde, mais bien plus que cela, cette destruction du temple, le lieu où Dieu avait mis la mémoire de son nom. Mais Dieu n'est jamais l'otage de nos désobéissances et il est obligé d'exercer ce jugement. Alors tout est perdu ? Non, tout n'est pas perdu parce que Dieu est aussi un Dieu fidèle. Et les prophètes avaient prédit, hein, Ésaïe 150 ans avant, Jérémie avait prédit « un reste reviendra ». Alors ce reste n'est pas revenu tout de suite, il a fallu plusieurs décennies pendant lesquelles ce peuple s'est installé, comme lui avait conseillé Jérémie d'ailleurs, en Mésopotamie, sur les bords de l'Euphrate, dans cette région-là. Ce peuple s'est installé sous le règne de la superpuissance de l'époque, qui était Babylone. Et puis, en 538, une superpuissance chasse l'autre. Babylone est prise par le roi de Perse, et là, un changement de politique radical, à la politique répressive et les politiques de déportation de l'Empire babylonien, succède une politique beaucoup plus tolérante, et Cyrus, c'est reconnu par l'histoire, on a retrouvé des traces d'édits de Cyrus. Cyrus promulgue cet édit dont on a lu une partie dans le livre d'Esdras, début du livre d'Esdras. Chose incroyable, Cyrus appelle les déportés à retourner dans leur pays. Et non seulement à retourner dans leur pays, mais, on l'a lu, à reconstruire le temple de l'Éternel. Il faut mesurer la portée de ces événements, à la fois en regard de l'enjeu qui est non seulement celui d'une population qui migre d'une terre à l'autre, de personnes exilées, mais celui de la manifestation physique, matérielle, de la présence de Dieu à l'endroit où il a mis la mémoire de son nom. Cet édit de Cyrus avait été prédit longtemps avant par le prophète Jérémie, plus de 150 ans auparavant. Et Dieu accomplit ses promesses. Effectivement, un reste revient. Un reste revient. Alors, certainement, ce n'est pas tout le peuple. C'est même très petite quantité d'hommes et de femmes. On l'a lu, 42 000 personnes. C'est même pas la population d'Angoulême-Ville qui revient. Alors oui, ce n'est qu'un reste. Et c'est intéressant de voir ce contexte de cette période-là, cette tension entre, d'un côté, les promesses de Dieu qui s'accomplissent d'une façon absolument inespérée. C'était quelque chose de totalement révolutionnaire, qui ne s'était jamais vu, qu'un roi autorise comme ça une population à retourner dans son pays. Inespéré, mais Dieu l'avait dit pourtant, Dieu l'avait prédit. Et en même temps, la faiblesse d'un petit reste, un petit groupe de personnes. Oh, on est bien loin de la splendeur du règne de Salomon, un des grandes heures du roi David. Ce petit reste n'est même pas un royaume indépendant, puisque Zorobabel, le chef, n'est que gouverneur, il n'est pas roi, même s'il est de la lignée royale. Et ce peuple revient, sous la direction de Zorobabel, et arrive dans le pays en 538. Un troisième point, ce que j'aimerais souligner encore, après cette catastrophe de la prise et de la destruction du temple, ce retour inespéré et pourtant accompli, prédit par l'Éternel, c'est cette construction du temple. Par quoi commencent les exilés ? Est-ce qu'ils commencent par rassembler les pierres, par reconstruire les murailles ? Non, on l'a vu sur la frise auparavant, la muraille, elle sera reconstruite un siècle après, presque un siècle après sous Néhémie. Au milieu de ce tas de ruines, qu'est-ce qu'ils font ? Ils redressent l'autel. ça a été souvent souligné par beaucoup de commentateurs. La première chose que font, que fait ce petit reste de peuple au milieu d'une population par ailleurs hostile, parce que autour d'Israël, les peuples qui les peuples environnants ne sont pas favorables à ce petit reste qui revient. Eh bien, que font-ils? Ils redressent l'autel. Ils commencent par redresser l'autel, c'est ce qu'on a lu dans le livre d'Esdras. Alors, ça nous parle simplement directement, je ne peux pas anticiper sur les exposés qui vont suivre, ça nous montre l'importance que Dieu attache et que le peuple a comprise, l'importance du culte qui est rendu à Dieu. Ce qui compte, ce n'est pas ce qui est visible, ce ne sont pas les murs du temple, ce ne sont pas les colonnes d'airain, ce n'est pas le décor et l'environnement, ce ne sont pas les murailles de Jérusalem. Ce qui compte, c'est ce qui est rendu à Dieu, ce culte qui monte vers Dieu. Et cela, ce peuple l'a bien compris. Mais la situation, pour autant, n'est pas facile. Autour de Zorobabel et des hommes qui l'entourent, c'est l'hostilité des peuples environnants. Et puis rapidement, cette hostilité devient très très marquée. La situation politique, sans doute, à la cour de Perse est plus défavorable. On le lit dans le livre d'Esdras, des échanges de lettres, des accusations, des intrigues. Et le chantier de reconstruction du temple, qui avait si bien commencé, est arrêté. Et ce chantier s'arrête pendant une quinzaine d'années, 15-16 ans. Les travaux sont arrêtés. Et c'est à ce moment-là que commence la prophétie d'Agé. Et on le voit, le prophète Agé, le prophète Zacharie, qui encourage le peuple, et on va en parler dans les moments qui vont suivre. Voilà, donc je pense que c'est important de bien avoir en présent à l'esprit le cadre historique, parce que c'est ce qui nous fait comprendre un petit peu les enjeux de ces livres, et le parallèle également qu'on peut trouver par rapport à la situation de l'Église aujourd'hui. Dieu répond à ses promesses, Dieu est fidèle à ses promesses et le montre d'une façon extraordinaire. Il l'a montré dans ce retour de ce peuple, quelque chose qui ne s'était jamais vu dans l'histoire. Mais en même temps, on est bien loin de la gloire passée, de la gloire du roi de Salomon. Oui, c'est la ruine, hein, la ruine au sens propre. On voit là l'autel sur cette image, l'autel qui est reconstruit au milieu des ruines du temple. Eh bien, c'est aussi un temps de faiblesse, mais c'est un temps où des hommes et des femmes se lèvent pour reconstruire, pour rebâtir, pour rendre culte à Dieu.